Nous avons allumé aujourd'hui la quatrième bougie. Nous sommes le quatrième et dernier dimanche de l'Avent. Bientôt Noël, c'est bientôt l'heure. C'est pas l'heure, mais c'est bientôt l'heure. Et nous arrivons à la fin de cette période d'attente et de souvenir. Attente et souvenir de la venue du Fils de Dieu sur terre. Alors c'est quelque chose de régulier, il n'y a rien d'inattendu là-dedans. Hein. Chaque année, nous nous souvenons, chaque année, nous attendons, puis chaque année, nous célébrons la venue du Christ le jour de Noël. Et pour nous, chrétiens, cette fête garde tout son sens. Ce peuple, cette bonne nouvelle et ce roi, tout ce sens. Mais pour notre monde, avec le temps, elle devient une sorte de folklore. Et j'ai envie de dire que c'est presque normal. Quand une chose se répète chaque année, depuis des centaines d'années, au bout d'un moment, le sens se dilue, le message se disloque. La coquille de la fête est toujours là, mais elle se vide peu à peu. Ça se comprend, c'est normal. Alors, c'est peut-être pas très réjouissant, mais ça m'a amené à me poser une question sur le peuple d'Israël et sa manière d'attendre la venue du Messie. Parce qu'entre les prophéties du prophète Ésaïe qui annoncent le Messie et la venue du Christ, eh bien, le peuple d'Israël a attendu environ 700 ans. Génération après génération, pendant 700 ans, ils se sont transmis une promesse qu'ils ont attendue. Mais après tout ce temps, est-ce qu'ils y croyaient encore vraiment? Est-ce qu'ils l'attendaient toujours? Ou est-ce qu'après autant de temps, ce n'était pas devenu également une sorte de folklore national pour les Hébreux, comme Noël est devenu dans notre société, plus folklorique que de chose? Est-ce que ça restait vraiment une promesse pour eux? Une promesse qui demeure, mais dont le sens peut-être se serait dissous pour les Juifs, je ne sais pas. Alors j'ai cherché dans la Bible, j'ai cherché des preuves d'une attente réelle chez les Juifs, de l'époque de Jésus. Hein. Une attente réelle de la réalisation de ces promesses, même à l'époque de Jésus, même 700 ans après le début des promesses. Et je suis tombé sur un texte assez court, qui se trouve dans le livre des Actes. C'est un texte qui se passe un certain temps après la mort, la résurrection et la montée au ciel de Jésus. Ce texte nous raconte une discussion entre les responsables religieux juifs de l'époque qui se demandent quoi faire des disciples de Jésus qui sont de plus en plus nombreux alors que Jésus, lui, n'est plus là. Et ce texte se trouve en Actes chapitre 5, les versets 34 à 39. Et je vous invite à les lire. Mais l'un d'entre eux, donc un de ces responsables religieux, mais l'un d'entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres. Puis il dit « Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelque 400 hommes à sa suite, or il a été tué et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés, et l'on n'en entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une, ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes, et dans ce cas leur mouvement disparaîtra, ou bien il vient de Dieu, et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Le conseil se rangea à son avis. Alors les responsables juifs de l'époque discutent pour savoir quoi faire au sujet des disciples de Jésus qui sont de plus en plus nombreux. Ça les inquiète, mais ils ne savent pas trop s'ils doivent les laisser faire, intervenir. Alors un de ces responsables, Gamaliel, leur rappelle deux exemples historiques assez récents. Enfin, récents pour l'époque. Hein. Il leur parle d'un certain Teudas et d'un certain Judas le Galiléen. Alors ce Teudas, j'en ai pas trouvé d'autres traces, on ne le connaît pas ailleurs que dans ce texte. Mais Judas le Galiléen, on le connaît puisque l'historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, en parle dans ses récits historiques, justement, du 1er siècle. Et Teudas et Judas sont, semble-t-il, des personnages, des personnes qui sont apparues quelques années avant le ministère du Christ, peut-être quelques dizaines d'années. Et il semble que pas mal de gens les aient pris pour le fameux sauveur qui était promis. Des personnes les ont suivis en tant que disciples, en pensant suivre le sauveur qu'ils attendaient, mais ce n'était pas l'heure, ce n'était que du vent. Et dans notre texte, Gamaliel rappelle qu'il a suffi de frapper leur berger pour que le troupeau s'éparpille et disparaisse. Et ce n'est pas les seuls, parce que le même historien juif, Flavius Joseph, raconte également la vie d'autres pseudo-messies qui apparaissaient par-ci par-là à l'époque, de manière plus ou moins régulière. Ils faisaient un peu parler d'eux, un certain nombre de personnes devenaient leurs disciples, mais il suffisait qu'un peu d'opposition apparaisse et pouf, il n'y avait plus personne. Ces deux témoignages, dans le livre des Actes que nous avons lu et dans les écrits de Flavius Joseph, nous montrent quand même une chose, c'est que même 700 ans après les prophéties d'Ésaïe, le peuple attendait le Sauveur avec une telle impatience que régulièrement, il croyait le trouver un peu partout. Il suffisait qu'un personnage assez mystérieux, charismatique, apparaisse pour que de suite, il y ait des centaines de personnes qui le prennent pour le sauveur. Ça peut faire sourire un petit peu, mais ça nous montre bien que l'attente était toujours aussi intense et réelle, même après des centaines d'années. Et visiblement, l'impatience, c'est une réelle impatience des Juifs dans leur attente, elle était telle qu'ils voyaient des signes de la venue du Messie même là où il n'y en avait pas. Ils pensaient que c'était l'heure, mais ce n'était pas l'heure. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, de vouloir savoir si telle chose est bonne ou pas pour vous, de le demander à Dieu par des signes, et en fait d'être perdu parce que vous prenez tout pour un signe, ou peut-être même n'importe quoi pour un signe, et vous ne savez plus du tout quoi faire, et ça ne vous aide pas des masses. Ben, les Juifs, à l'époque, c'était le cas également, parce qu'ils attendaient avec une grande impatience. Malgré le temps, leur attente était toujours aussi sincère, aussi intense. Mais si cette attente est réellement sincère, je le crois, hein, elle ne me donne pas du tout l'impression d'être paisible. En lisant ces témoignages, ça me donne l'impression que ces personnes, les Juifs de l'époque, avaient peur. Peur de rater un signe, peur de rater la venue, peur de rater l'heure, peur de se tromper également. Lorsque le Christ est venu, les choses n'ont pas été différentes. Ses disciples l'ont suivi sans hésiter parce qu'ils ont reconnu en lui celui qu'ils attendaient, celui que les promesses de Dieu annonçaient. Et pourtant, dans de nombreux passages des évangiles, nous voyons les disciples de Jésus qui discutent à voix basse entre eux et qui s'interrogent sur Jésus lui-même. Ils discutaient de ce que Jésus faisait, de ce qu'il disait. Ils s'interrogeaient sur son identité, à tel point qu'un jour, le Christ s'est tourné vers eux pour leur poser directement la question « Qui dites-vous que je suis ?» Une attente, si elle est vécue comme ça, n'est pas une attente paisible. C'est une attente vécue dans la crainte, dans l'impatience, dans l'appréhension, dans le doute. Vivre une attente en regardant toujours par-dessus son épaule pour voir si on n'a pas raté un indice important ou si on ne s'est pas trompé quelque part, ce n'est pas vivre paisiblement cette attente. C'est être anxieux, c'est être angoissé, ce n'est absolument pas être en paix. Aujourd'hui, nous nous souvenons de cette attente. Et demain, après-demain, on aura encore l'occasion de le faire, peut-être en famille ou avec des amis. Mais nous nous souvenons aujourd'hui de cette venue, de cet accomplissement. C'est l'heure du souvenir, c'est l'heure. Mais nous attendons toujours également, non pas la venue, mais le retour du Christ, tel que la parole de Dieu nous le promet. Et en ce qui concerne ce retour, c'est visiblement pas encore l'heure. Mais j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui vivent cette attente dans la crainte, dans l'angoisse, décortiquant l'actualité et décortiquant les textes bibliques pour essayer de trouver des indices du retour du Christ, tournant les prophéties bibliques dans tous les sens pour y chercher une indication quelconque. C'est une attente qui ressemble bien peu à ce que le Christ nous dit peu de temps avant de quitter ses disciples en Jean chapitre 14. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Notre vie chrétienne, même dans ses difficultés, même dans ses moments d'attente, même dans ses moments de doute, le Christ n'a pas voulu que nous la vivions dans l'angoisse, mais en recherchant sa paix, la paix qui vient de Dieu. C'est pour ça que le Christ n'a pas donné d'indice de son retour à ses disciples, j'en suis persuadé. Au contraire, il leur a dit en Luc 12, verset 40, « C'est à un moment que vous n'aurez pas imaginé que le Fils de l'homme reviendra. » Jésus nous l'affirme, nous ne pouvons pas deviner à l'avance le moment de son retour. Et c'est tant mieux, je pense, parce que ça nous permet de vivre cette attente dans la paix. Imaginons s'il nous avait dit « Attention, avant de revenir, je vous donnerai des signes, et surtout les ratez pas. Faites bien attention aux signes. » Bien, nous serions en permanence à l'affût, dans l'angoisse de rater un signe, nous demandant sans arrêt si c'est l'heure ou pas. On ne pourrait pas vivre notre attente paisiblement. On vivrait une sorte de crainte permanente. Mais le Christ nous rassure en nous disant « Ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Je vais revenir. L'heure viendra. Mais ne vous inquiétez pas de savoir quand. Et dans votre attente, vivez en recherchant ma paix. » En faisant ça, Jésus nous appelle à ne pas vivre l'œil sur la montre, dans l'angoisse de sa venue future, mais à vivre dans la paix de Dieu dans notre vie présente et même dans nos projets d'avenir. Nous pouvons vivre en paix avec Dieu malgré les douleurs de ce monde. Même dans l'attente, l'incertitude ou le doute, nous pouvons être en paix. Mais Jésus nous l'affirme, cette paix ne viendra pas du monde. Elle ne viendra pas de nous-mêmes, de notre entourage, de notre contexte, de notre famille. Elle ne se trouve et ne se cherche qu'auprès de Dieu. C'est ce que les anges ont déclaré lors de la naissance du Christ. Paix sur la terre aux hommes qui aiment Dieu, que Dieu aime, pardon. C'était dans l'autre sens. Les Juifs attendaient ce Sauveur de manière intense, mais cette attente s'est peu à peu transformée en angoisse. Alors finalement, lorsque le Sauveur est effectivement venu, eh bien il fallait pouvoir rassurer les gens, leur montrer que c'était bien celui dont parlait l'Ancien Testament. C'est bien lui que Dieu avait promis, c'est l'heure. Et le début de l'évangile de Matthieu ne fait pas que nous raconter tout l'incroyable de la naissance du Christ, non, il prend également le temps de rassurer. Il nous raconte la naissance de Jésus en montrant petit à petit que c'est bien l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Lorsque Matthieu nous raconte qu'un ange vient voir Marie pour lui dire qu'elle sera enceinte et qu'elle donnera naissance au Sauveur, eh bien il montre que c'est l'accomplissement d'une prophétie en citant le prophète Ésaïe et en écrivant « Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». C'est l'heure. Lorsque Matthieu raconte que des mages sont allés voir le roi Hérode pour savoir où le Sauveur doit naître, il cite cette fois le prophète Michée en écrivant « Car voici ce que le prophète a écrit, « Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » C'est l'heure. Lorsque Matthieu raconte que Marie et Joseph doivent fuir en Égypte parce que le roi Hérode veut se débarrasser de l'enfant de Jésus, eh bien il montre à nouveau que ça répond à une prophétie en citant le prophète Osée en écrivant « Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » C'est l'heure. Lorsque Matthieu enfin raconte que le roi Hérode, furieux, ordonne la mort de tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem, il montre encore que ça répond à une prophétie en citant le prophète Jérémie et en écrivant « Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. » C'était l'heure. Le peuple d'Israël vivait dans l'angoisse de cette attente, l'attente de la venue de son Sauveur. Alors l'évangile de Matthieu veut rassurer, veut apaiser. Et peut-être notre vie est-elle également remplie d'attentes, de doutes, de choix incertains, toutes ces milliers de questions et de décisions à prendre qui remplissent notre quotidien. Parfois, ça peut avoir tendance à nous submerger, à nous angoisser. Eh bien, ce matin, recevez tout à nouveau cet appel du Christ à vivre votre vie, vos attentes, vos difficultés, vos doutes même, en recherchant auprès de lui une paix qui dépasse celle que les sécurités illusoires de ce monde peuvent nous donner l'impression de pouvoir apporter. Car le retour du Christ est une promesse future pour nous. Ce n'est pas l'heure. Mais la paix de Dieu est une promesse faite au présent. C'est l'heure. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Cette paix est venue en personne nous rencontrer à Noël. Alors durant ces fêtes de fin d'année, nourrissez-vous avant tout de cette paix que le Christ nous donne. Amen.